Notre chroniqueuse politique Jacinthe Varel est avec nous en studio. Bon lundi
bonjour,
matin.
Bonjour.
Comment ça a été ces routes pour t'en venir ce matin?
Eh bien, ça va.
Pas
ça
pire?
Va.
Okay,
oui, oui,
okay.
Ça va. C'est des autos, là, c'est déglacer les autos le matin pour tout le monde.
Mais oui,
après
c'est
ça.
Hein?
Hey, on l'a répété combien de fois ce matin? On a eu des textos comme ça n'a pas de sens. Les gens déneiger et déglacer vos voitures.
Ouais.
Pas nécessairement pour vous. Oui, ça peut nuire un peu aussi à votre visibilité,
ouais.
Mais pour les gens derrière vous.
Oui, oui, les grosses plaques qui partent du toit du coffre, là, du dessus des voitures, puis qui nous arrivent en plein pare-brise, c'est intense.
Déneiger, déglacer vos voitures, s'il vous plaît, c'est pas mal le mot d'ordre, là, parce que si on suit au texto ce matin.
Ça devrait être la dernière, hein?
On le souhaite, on le souhaite.
La dernière manifestation de notre climat dur.
J'ai volontairement arrêté quand je fais la météo ce matin à mercredi plein soleil, parce que jeudi, on annonce un 9 degrés et c'est marqué neige ou pluie.
Oh.
Fait que je me dis, on réglera ça dans les prochains jours. Là. On va pas se rendre jusque-là tout de suite.
9 degrés, j'ai confiance, ça va être de la pluie.
Moi aussi. Jacinthe, est-ce que tu as entendu notre jasette
oui.
avec Ruba Gazelle de Québec
oui.
Soldat? T'en as pensé quoi?
Eh bien, c'est une très belle entrevue, tout d'abord. Je vais commenter votre prestation.
Merci, c'est gentil.
Non, mais je vous trouve bon. Vous avez chacun vos angles, puis des questions toujours très pertinentes. J'ai beaucoup à apprendre de vous pour poser des questions.
Hein,
vous savez que je pose aussi des questions dans une autre émission ailleurs, et c'est pas ma force. Mais franchement, j'ai trouvé que... On était souvent dans les mêmes répétitions au niveau de ses réponses là, à Ruba Gazelle. On est beaucoup dans « on représente les travailleurs, on représente les travailleurs ». Non, on n'est pas déconnecté des gens, mais j'avais l'impression presque parfois d'entendre un mouvement syndical sans programme réel.
C'est vrai.
La gauche existe en France, par exemple, et elle est très forte. C'est pas vrai qu'elle se meurt partout sur la planète. Là, la gauche est forte en France. Elle a un programme. Elle ne fait pas que défendre des valeurs ou des idées. T'sais, on défend les travailleurs. On défend les travailleurs. Ça, c'est une valeur, c'est une idée. C'est presque même syndical comme discours. C'est pas, j'entends pas de politique publique, j'entends pas de programme très concret. En même temps, elle n'est pas en campagne électorale, vous allez me dire, elle n'était pas là pour défendre un programme. Mais je dirais que faut surpasser là, les grandes valeurs. Ce parti-là a été fort à une certaine époque, là où il cherchait à se faire connaître et là où il était de plus en plus populaire, justement sur une défense des valeurs. Mais là, on les connaît, leurs valeurs. Il faut aller plus loin, il faut aller plus creux, il faut aller plus complexe. Et je trouvais que ça manquait à ce niveau-là.
C'était justement ce que Gabriel Nadeau-Dubois voulait faire, peut-être doter le parti d'un programme électoral qui allait rassembler encore plus de gens autour des idéologies de gauche. Ça n'a pas passé, puis Ruba Gazelle vient pas condamner ceux qui, justement, critiquent ouvertement Gabriel Nadeau-Dubois.
Ouais.
Donc, on sent que ça va demeurer toujours une espèce d'enjeu, pas enjeu. Il va toujours avoir des conflits au sein de Québec solidaire, dans le fond.
Oui, bien, il y a toujours des conflits au sein de tous les partis politiques.
Ouais.
Rappelez-vous, le Parti québécois a eu ses déchirements à l'époque où... Là, je parle pas du Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je le connais pas, celui-là.
Bernard Landry a claqué la porte.
Ben oui. Donc, dès qu'on s'adresse à justement un programme plus clair, dès qu'on s'en va dans la clarté, on sort des valeurs, puis on s'en va dans un programme, c'est là qu'il y a des déchirements.
Mm-hmm.
C'est là où il y a des divisions internes, parce que là, on s'entend plus sur comment on va y arriver. Puis l'autre chose, j'ai encore entendu la grande faiblesse de Québec solidaire, c'est-à-dire qu'on veut aider les gens les plus démunis, les plus vulnérables, on ne dit pas comment, où on va prendre où l'argent? Parce que l'argent, là, en ce moment, la cagnotte gouvernementale, là, vient de toutes nos poches via les taxes et les impôts. Puis il n'y en a plus assez, il y en a tellement plus assez qu'on est en déficit de 13,6 milliards.
Record.
Justement, il continuera de monter, c'est pas grave, ce déficit-là.
Oui, c'est ça. On a compris. C'est peut-être ça, le programme, finalement.
Hey, Jacinthe, parlons, là, on va y aller au niveau fédéral, là, la campagne électorale, une semaine maintenant de campagne électorale, et on va parler de conflits ou de frustration au sein des partis. De ce qu'on peut entendre, en tout cas en fin de semaine, c'est qu'il y aurait frustration au sein des conservateurs. As-tu entendu parler de ce qui se passe à l'interne chez les conservateurs?
Oui, je trouve ça quand même particulier parce que... On n'entend pas beaucoup parler du programme. Les conservateurs sont venus ici à Québec mercredi la semaine dernière. Ça n'a pas été couvert tant que ça. Je parle pas de boulevard. Hein? Quand je parle de ça n'a pas été couvert, puis quand je parle des médias...
Oui, parce que j'étais là,
je sais. Je parle de l'ensemble. Je parle d'une couverture générale. Je parle pas de boulevard. Donc, je tiens à le préciser parce que je sais que c'est boulevard.
Merci.
On fait des couvertures bien équitables, puis on couvre tous les angles. Mais il reste que je trouve qu'on met beaucoup d'accent sur les conflits, justement, quand il y en a ou les bébites, mais on parle pas... c'est ça, ça fait l'affaire de parler des enjeux au sein de... quand il y a des histoires de candidats spécifiques.
Cela dit, t'aimerais-tu voir Pierre Poilievre plus frappant, plus mordant envers Donald Trump ou pour toi? Parce que c'est vrai, de l'extérieur, là, je pensais à ça en fin de semaine, puis je me dis, il fait une campagne électorale normale dans un contexte anormal.
Oui, effectivement.
Il est à côté de la coche avec ça?
Ça, là, c'est le grand risque qui guette les conservateurs du Canada en ce moment. Quand on parlait de scission, on parlait de division dans le
parti.
Parce
qu'il fait des super bonnes annonces, là. GNL Québec, impôt sur le revenu en capital, on va réinvestir ça dans notre économie. Si les gens réinvestissent, il n'y aura pas de taxes. C'est toutes des annonces qui sont en adhésion avec le cœur même du parti, mais on dirait qu'il ne frappe pas de point présentement à cause du contexte.
Effectivement, puis c'est le danger qui guette le Parti conservateur du Canada, c'est-à-dire qu'il s'est recentré beaucoup et il a un message de campagne électorale, tu le dis très bien, un message de campagne électorale normal, alors qu'on est dans des conditions très particulières. On se sent menacé par notre voisin du Sud et on vit une relation tendue. Moi, c'est comme ça que je le dis. Je sais que tout le monde n'aimera pas mon choix de mots, mais on est dans une relation tendue avec notre voisin du Sud. C'est une relation qui a plusieurs, dizaines, sinon centaines d'années là, entre le Canada et les États-Unis. Donc, c'est pas vrai que dans un chapitre ou même un paragraphe où ça va moins bien, moi, j'appelle pas ça une coupure, une rupture ou la fin là, d'une relation, c'est plus tendu. Et c'est vrai que Pierre Poilievre s'est recentré beaucoup à un message axé sur une annonce par jour, chaque jour, pour un Canada plus fort, mais on n'est pas en opposition tant que ça avec Donald Trump. On évite ce sujet-là et on s'est recentré beaucoup. Et ça, c'est un risque pour le Parti conservateur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très contents de ce recentrage-là, qui sont très contents qu'on aille chercher un message presque libéral, un petit peu de droite, mais presque libéral. Ça fait du bien à tous les Red Tory de ce monde qu'on appelle, donc les fameux conservateurs très, très modérés. Mais c'est sûr que des conservateurs francs ou des conservateurs assumés vont dire, voyons, on s'attend à plus de Pierre Poilievre, on s'attend à plus de mordant, plus de punch, plus d'énergie, plus de vigueur. Et ça, ben ça risque... à la fin de la campagne électorale, dépendamment des résultats électoraux, de faire une espèce de division ou d'accentuer une espèce de division. Je vous dirais que, moi, je surveille beaucoup ça, là, la clique à Jean Charest, la clique à Pierre Poilievre, dans le temps où il y a eu la course au leadership pour le Parti conservateur du Canada. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'appui pour Jean Charest, qui était une version plus douce, plus soft, plus modérée, presque libérale un peu à droite ou libérale conservatrice. Simili-conservateur libéral ou conservateur mou, puis un conservatisme plus assumé, plus franc. Et là, ben, en ce moment, c'est là-dessus qu'on joue. Hein. On joue à essayer de garder l'ensemble de ces électeurs-là, mais ceux qui sont plus assumés vont dire, ben, voyons, c'est plus le Pierre Poilievre qu'on a connu. Et ceux qui se rangeaient derrière Jean Charest à la course à la chefferie, ben là, sont satisfaits parce qu'on a plus le modèle Charest, je dirais, en ce moment, en campagne électorale.
Jacinthe-Ève, je te pose la prochaine question sans parti pris. Est-ce que c'est injuste que Mark Carney, premier ministre non élu, puisse mettre pendant cette campagne électorale-là le veston de premier ministre et négocier ou gérer certaines situations avec, entre autres, les États-Unis, puis pas nécessairement faire campagne?
C'est vrai que ça a toujours été. Il y a toujours un premier ministre qui défend son titre, qui défend son poste. Donc, je serais injuste moi-même de dire que c'est injuste. Ça a toujours été comme ça. Mais dans son cas, il y a quand même une particularité, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été élu, même pas comme député. Donc, c'est un monsieur qui est arrivé là, qui s'est fait élire par son propre parti, qui a revêtu le veston de premier ministre du Canada. Et là, il fait campagne. En plus, il peut suspendre sa campagne pour aller s'occuper des affaires du Canada. Si c'est pas injuste parce que ça respecte les règles, il reste que c'est disproportionné comme exposition, comme fuite, comme moyen de fuite, parce qu'à un moment donné, il est parti aussi s'occuper des affaires du Canada. Là, la semaine dernière, il a suspendu sa campagne. Il commençait à être dans l'eau chaude sur des affaires de son passé qui sortaient. Ça lui a permis de s'esquiver des questions potentielles de journalistes parce qu'il a dit, ben là, on a une crise, je vais aller discuter au téléphone avec Donald Trump, je vais aller rencontrer mes ministres des provinces. Et puis pendant ce temps-là, il se sauve finalement de faire face à la musique sur des histoires de son passé qui sortaient. Puis rappelez-vous, la semaine dernière, il y a énormément d'histoires sur son passé qui sont sorties. Je pense, par exemple, aux accusations de plagiat sur sa thèse de doctorat à l'Université d'Oxford, qui date de 1995, mais il reste que ça, c'est ressorti. Sur les accusations en lien avec... les paradis fiscaux qui ont été créés ou pour faire de l'évitement fiscal avec l'entreprise pour laquelle il travaillait, Brookfield. Là, il y a le fameux groupe mystérieux. J'allais dire secret, mais c'est pas secret. Fait que là, je cherchais
société
un autre terme.
Société secrète, c'est pas ça.
De grands penseurs et de grands, grands influenceurs.
On sait pas trop ce que ça fait.
Ouais. C'est ça.
Pas de plateforme pour le Québec aussi, on peut en nommer plein.
Mais justement, malgré cette semaine difficile-là pour Mark Carney, hier, j'avais pensé que tous les sondages mettent les libéraux en avant. J'ai comme l'impression que peu importe ce qui arrive, avec... l'appui du... Tu sais, le monde votera pas NPD, puis quand tu votais NPD, c'est rare, tu vas t'en aller conservateur. Fait que là, les libéraux arrachent plein de points là. J'ai l'impression que peu importe ce qui se passe, c'est une petite balade dans le parc pour les libéraux, puis ils vont être élus de toute façon. Je me trompe-tu de penser que c'est déjà fait, puis que...
Ben, moi, ça me fait penser à la campagne de Kamala Harris et Donald Trump. Kamala Harris avait tellement de sympathie. Vous allez dire, ben oui, mais elle a fini par pas être élue, mais il reste qu'elle a eu beaucoup de sympathie tout au long de la campagne électorale, entre autres parce qu'il y avait une espèce de haine ou de mépris de Donald Trump généralisé ou bien qui faisait en sorte qu'il y avait des électeurs très convaincus qui allaient voter Kamala Harris. Peu importe ce que Kamala Harris disait ou faisait, hein, elle a évité tout au long de la campagne plein d'entrevues avec des journalistes. Elle avait un discours assez vide, des belles phrases creuses, des phrases de politicien, puis malgré tout une langue de bois. Elle s'accrochait à son texte qui voulait à peu près rien dire sauf on va améliorer notre pays, je suis là pour le monde. Puis je veux dire, il y a plein de belles phrases comme ça qu'on pourrait toutes se dire à matin dans nos voitures chez nous, à la maison, mais qui annoncent aucun programme spécifique. Malgré tout, elle avait encore cette base-là d'appui forte. Bon, ça a donné le résultat là, surprenant pour certains, là, mais il reste que j'ai l'impression que c'est ce dont profite Mark Carney actuellement, c'est-à-dire qu'il y a une base d'appui forte que peu importe ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il ressort sur son histoire, on n'aime pas Pierre Poilievre, on a peur des conservateurs, donc on va voter Mark Carney. En plus, donc on s'accroche pas à chacun, on scrute pas qui est le monsieur, on regarde ce qu'il représente. Il représente pour nous quelque chose de rassurant. On sait pas trop pourquoi, mais parfois, juste des belles phrases rassurantes, c'est ce qui
son
suffit.
Son CV.
Oui, c'est ça. Oui, son CV. Oui, son CV.
Non, mais c'est vrai, on met ça de l'avant, puis on dirait que les gens disent « Hey, il était gouverneur de la Banque du Canada,
ouais.
Donc lui, il peut aller négocier avec Donald Trump. »
Oui, mais moi, j'ai dit quelque chose sur les réseaux sociaux récemment, puis ça m'a fait encore plus réfléchir une fois que je l'ai écrit. Mais on a tous dans notre famille quelqu'un de bien éduqué, bien bardé de diplôme, ouais. Là, puis qui est allé loin dans la vie avec une feuille de route impressionnante. Puis dans les réunions de famille, à un moment donné, au jour de l'an, à Noël, on a tout aussi cet oncle ou cette tante qui est plus axée, qui a une vue bien simple, bien modeste, qui n'a pas un gros CV, un gros parcours, mais qui est forte sur un raisonnement logique, hein, puis qui est forte sur un jugement qui a de l'allure, un bon jugement, qu'on trouve toujours, hey, cette tante-là ou cet oncle-là, et pas aller loin dans vie, entre guillemets, là, tu sais, il y a un emploi bien modeste, un salaire bien modeste, un mode de vie bien modeste, mais Colin, que quand il parle, son raisonnement est logique, est appuyé sur des arguments, tu sais, ça a de l'allure, ce qu'il dit. Ben moi, c'est un peu ça que je vois. Mark Carney, c'est celui où il y a une longue feuille de route, un grand CV, mais il peut nous sortir des raisonnements parfois qui sont jetables par terre, mm-hmm, par ma tante ou mon oncle qui a une vie bien modeste, mais qui va dire « Hey, t'es bien beau avec tes grands diplômes, mais moi te dire une affaire, ta logique ou ton raisonnement pas d'allure à cause de A, B, C, D, E, ça finit là. »
C'est le même, ça se passe dans la vie. Je termine là-dessus. Est-ce que Donald Trump fait de l'ingérence dans notre campagne électorale ou de l'influence? Parce qu'il s'est positionné pour Mark Carney. Mark Carney n'est plus le gouverneur du 51e, ouais, État, mais le premier ministre. Ouais. Donc, complètement différent du discours envers Mark Carney qu'il avait envers Justin Trudeau. Comment tu vois ça, toi?
Moi, je vois ça comme de l'influence, effectivement, et la distinction est importante. C'est-à-dire que ça a un certain poids, puis ça ne mesure ça, l'utilisation de termes plus appropriés ou plus respectueux maintenant. Mais en même temps, il n'est pas en train de dire à tout le monde pour qui voter. Il n'est pas non plus en train de faire aller son réseau d'influence, ou en tout cas pas à notre connaissance, du réseau d'affaires, des réseaux d'influenceurs pour vraiment dominer le vote ou influencer le vote. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai rien à lui reprocher en ce qui a trait à l'influence qu'il essaie d'exercer. Là, c'est une influence bien modeste. Ouais.
Jacinthe Averill, notre chroniqueuse politique, tu le sais, toujours un plaisir, cher ami.
Ben oui.
Passe une belle semaine.
Ben oui, bonne semaine. Ben, je reviendrai vous voir.
Parfait.
Ah oui.
J'espère. À bientôt. Rage.